Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. Alors c'est l'invité 12-13, le moment d'échange privilégié avec les acteurs du territoire, ceux qui font vivre votre région. Aujourd'hui, nous accueillons Régis Van Acker, président de la Cité 40, et Hubert Raffini. Comment allez-vous, messieurs ?
Parfaitement, c'est un jour de fête, donc on va très bien.
Oui, on va très bien, oui.
C'est un jour d'anniversaire.
C'est vrai, bon anniversaire, messieurs.
Oui.
Même si vous n'avez pas 120 ans.
Non, non même si on paraît 120 ans à peu près.
Oui, ouais, à vous deux.
60
vous...
chacun, c'est
voilà,
ça.
Voilà, moitié-moitié, ça passe. Ça passe. Donc on va effectivement, on va parler de... C'est un jour spécial, hein, c'est les 120 ans. Les 120 ans de la laïcité. Et c'est vrai que ça doit être une fête. On fête bien des tas d'autres choses. Pourquoi ne pas fêter ça? Voilà, il n'y a pas de raison. C'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière déjà. Donc ça va être intéressant de le compléter un petit peu par vos propos. On va d'abord écouter le flash info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission.
Parfait.
Et voilà, c'est parti pour la première partie de cette émission. Alors messieurs, vous êtes tous deux membres actifs de Laïcité 40. On va présenter un petit peu votre structure, le rappeler aux gens, même si vous êtes déjà venus à la radio. On en a parlé, mais une piqûre de rappel, ça fait jamais mal par les temps qui courent. Qu'en pensez-vous ?
En effet, on a la chance d'avoir le président de Laïcité 40. Donc c'est lui qui va nous présenter... l'association qui n'est pas tout à fait récente, qui commence à avoir un petit peu d'expérience, qui a été créée, Régis, en
2009.
En 2009.
Mmh. C'est vas-y.
Consécutivement, finalement, aux 100 ans de la laïcité. Quand on dit les 100 ans ou les 120 ans aujourd'hui de la laïcité, en fait, on parle des 100 ans ou des 120 ans aujourd'hui de la loi de 1905.
Oui,
loi de 1905 qui est appelée loi de séparation des églises et de l'État et qui a une grande particularité, c'est de définir complètement en détail la laïcité sans utiliser son nom. C'est-à-dire que quand vous lisez la soixantaine d'articles, jamais vous ne trouvez le mot laïcité.
D'accord.
Et pourtant, c'est la loi qui définit très précisément ce qu'est la laïcité.
Ah oui. Alors si on faisait un petit peu d'histoire, parce que je ne suis pas assez expert, j'avoue, mais alors c'était quoi la société avant cette loi ? Et ce terme laïcité, justement, il est apparu quand et pourquoi ? Qui c'est qui l'a mis au jour ?
Alors là, vous avez de la chance parce que Régis est un spécialiste.
Alors, je suis pas spécialiste, mais je me suis documenté. La loi de 1905, c'est l'une des lois qui a permis de laïciser notre pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le clergé a perdu un certain nombre d'actions qu'il faisait avant, et c'est donc des laïcs maintenant qui le font. Donc ça a commencé bien avant, en 1789, hein, au moment de la Révolution française, puisque précédemment à cette Révolution, c'est le roi divin qui décidait de tout, et avec la religion catholique qui était aussi à la manœuvre pour organiser le pays. C'était le seul dogme, puisqu'il y a toujours, quelles que soient les religions, il y a toujours eu des guerres. Et c'est paradoxal, hein, une religion qui prône l'amour a fait des guerres contre les protestants, a fait des guerres, il a fait des morts, bref, c'est incroyable. Et donc, 1789, le peuple a décidé que... on ne voulait plus avoir du tout de religion pour organiser le pays et que seul le peuple était souverain. Donc voilà, c'est parti de là. Et après, il y a eu un ensemble de déclinaisons de lois, notamment sur l'éducation, puisqu'on a enlevé tout ce qui était clergé des écoles et on les a remplacés progressivement par des laïcs. Ensuite, c'était l'école gratuite. Ensuite, ça a été l'école pour les garçons et les filles. Donc il y a eu, un processus... lent, mais qui s'est fait durant les différentes républiques, les différents empires qu'on a vécu de 1789 à aujourd'hui. Et il y a eu la loi Ferry, bien évidemment, qui a été fondamentale pour l'école. Ensuite, si je fais bref, 2004, c'est la loi sur les symboles à l'école. 2004, 2013, c'est la charte de la laïcité dans les établissements scolaires. 2021, c'est le texte, la loi qui conforte les valeurs de la République et qui nomme d'ailleurs le référent laïcité dans tous les services publics et qui proclame aujourd'hui dans les services publics la journée de la laïcité le 9 décembre.
Oui.
Voilà, j'ai fait simple. Hein,
pour oui, pas... oui, non, mais c'est intéressant de savoir. Moi, justement, alors ce référent laïcité, dans les faits, concrètement, est-ce qu'il est vraiment, il existe vraiment partout là où il devrait être, dans tous les établissements publics, les scolaires, j'imagine, etc. Il devrait y en avoir un, c'est ça?
Alors, écoutez, ce matin, j'ai participé à l'organisation, enfin, j'ai participé à la conférence départementale de la laïcité et de la liberté de pratiquer sa religion, organisée par le préfet à Mont-de-Marsan, auquel il y avait tous les services publics qui étaient présents, il y avait les cultes, il y avait donc l'association Laïcité 40, l'association des maires, le conseil départemental, enfin bon, tout, on était tous autour de la table, chacun a pu prendre la parole pour exprimer le fait que déjà la formation de tous les agents publics était en marche, et donc avec des très bons pourcentages de formation, que ensuite l'application des référents était faite. Alors je peux pas vous dire que c'est fait dans tous les services, parce que je prends l'exemple, le centre de gestion du département auquel adhèrent un certain nombre de collectivités, ils ont un référent laïcité qui permet de résoudre toutes les questions qui sont liées aux collectivités qui ont adhéré au centre de gestion. Ce qui fait donc que dans certaines mairies, il n'y a pas de référent laïcité, c'est principalement le maire qui interroge le centre de gestion. Et dans d'autres endroits de collectivités ou de services publics, il y a un référent laïcité, comme à l'hôpital de Dax. L'hôpital de Dax, il y a une personne qui est référente laïcité et qui est toujours présente à nos côtés lorsqu'on fait de la sensibilisation à la laïcité auprès des personnels.
Alors le référent, il sert un petit peu de, on va dire, de médiateur hein, quand il y a un conflit, un problème qui implique la laïcité, c'est ça son rôle ?
Alors, c'est de répondre aux questionnements des agents de la fonction publique. C'est un personnage, c'est une personne qui est aussi chargée de la formation des personnels, notamment des nouveaux qui arrivent, pour s'assurer que tout le monde ait bien suivi cette sensibilisation. Ensuite, c'est lui qui est en charge, le jour de du 9 décembre, de proposer à la direction et au service soit un événement ou une manière de pouvoir célébrer cette journée. Et enfin, cette personne, elle fait normalement un rapport annuel sur la laïcité dans le service, savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu des choses particulières, et qui sont remontées normalement à la préfecture.
D'accord.
Et illustration, par exemple, ce matin, à l'hôpital de Dax, était dévoilée la plaque qui a été conçue par un ébéniste et par Laïcité 40. Et donc l'hôpital de Dax, ce matin, dévoilait cette plaque à l'accueil en présence donc, du directeur.
D'accord.
Et d'Hélène, la chargée de laïcité, la référente.
D'accord, très bien. Donc c'est l'occasion. Alors c'est un jour un peu spécial. Hein. Vous parliez de plaques, etc. C'est vrai qu'on a fait récemment quelques commémorations par rapport à des événements militaires. Hein. On a fêté soit des guerres, soit des paix. On préfère fêter les paix que les guerres, bien entendu. Quel est le niveau d'importance de cette journée par rapport à ces... Bon, c'est pas un jour férié, hein, on est d'accord. Hein. Ça pourrait peut-être en être un, je ne sais pas si quelqu'un a décidé un jour de discuter. Mais c'est vrai que c'est très important, en fait, de fêter ça, parce que c'est quand même fondateur. On parle tout le temps de constitution, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est quand même quelque chose de très fondateur dans notre société.
C'est un trésor. La laïcité... pour la République, est un trésor. C'est vrai que le concept n'est pas très facile à faire passer, c'est dommage. Donc il faut réfléchir, il faut être formé, lire un petit peu, pour comprendre quelles sont les finesses de la laïcité.
C'est vrai. C'est vrai que moi, comme on a reçu, qu'on a reçu effectivement la Ligue des droits de l'homme, et la semaine dernière, on en a parlé de ça, ça paraît... Ça peut paraître tellement simple la définition elle-même, si on faisait une définition entre... En fait, c'est surtout une question de liberté, en fait. Liberté pour tout le monde, hein, voilà, de tous les côtés. Ça paraît tellement simple à dire comme ça, mais effectivement, peut-être que les gens... Bon, alors, il se trouve qu'on en reparle, peut-être que certaines personnes ont encore une lecture comme quoi c'est un message anti-religion qui tape sur un des deux côtés, s'il devait en avoir deux, ce qui est encore une fois difficile à faire passer un petit peu. Vous êtes bien passé pour le faire savoir.
Absolument, ce n'est absolument pas une loi anti-religion. On peut dire que l'État est a-religieux, s'il n'y en a pas de religion. C'est la séparation des églises et de l'État. Ça veut dire que l'État s'oblige à être neutre, quelle que soit la religion de la personne qu'il reçoit, quelle que soit sa religion où il a aussi la possibilité de ne pas en avoir de religion,
oui, oui.
ou de ne pas du tout être sensible à ce genre de problématique,
oui, oui.
voire même de ne pas être du tout intéressé par, tout ça.
Mmh.
Voilà. C'est effectivement une loi qui est une loi de liberté.
Ah ouais, la liberté. Vivre et laisser vivre. Voilà, on pourrait dire ça.
Petit rappel, le premier article de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte, donc de croire ou ne pas croire. Garantit, donc elle met tous les moyens possibles pour permettre à chacun d'entre nous, si on est croyant ou pas croyant, enfin si on est croyant, de pouvoir pratiquer son culte, donc d'aller aux célébrations, de pouvoir faire de la formation. Enfin, c'est quand même important, c'est que la République, elle est là pour assurer ses libertés.
Tout à fait, elle protège les croyants.
Oui, voilà. Et les non-croyants.
Et les non-croyants, voilà, c'est ça.
Ce qui nous permet à tous de nous respecter et de pouvoir accepter nos différences. Enfin voilà, c'est très important.
Oui. Et voilà, c'était Mel Brooks avec It's Good to be King. Alors vous avez entendu, il y a la Marseillaise dedans et tout. C'est une bonne manière de célébrer un anniversaire, hein, avec un morceau de Marseillaise dedans. On peut pas faire mieux. Alors messieurs, on était en train de discuter hors antenne. Oui, c'est vrai. Ben en fait, qu'est-ce qui peut aider tout ça? Ben c'est expliquer, c'est former, c'est expliquer constamment, remettre 100 fois l'ouvrage, hein, expliquer. Et donc ça fait partie de vos tâches en fait, tout ça, cette partie-là.
Nous essayons effectivement, et nous essayons de le faire dans les collectivités locales, dans les établissements scolaires, enfin bref, partout où les gens ont envie de mieux comprendre ce qu'est la laïcité. Ces formations, elles sont évidemment didactiques, mais elles sont aussi, du moins on essaye, ludiques. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des quiz, on essaye de laisser aux gens qui subissent cette formation la possibilité de jouer, de réfléchir. Voilà, ça n'est pas uniquement on écoute le professeur qui déclame ses textes sur la laïcité. Et on s'aperçoit, notamment si on fait référence à ce qui se passe à l'hôpital, où il y a déjà eu 3 formations des cadres, eh bien on s'aperçoit que les gens prennent la parole facilement et effectivement ont de vraies interrogations. On a effectivement l'interrogation classique, c'est pourquoi nous, agents de l'État, à l'hôpital, sommes-nous obligés d'être neutres? Ah ben oui.
Parce qu'on est des agents de l'État aussi.
Eh bien, tout simplement parce que l'État s'est engagé à être neutre. Donc, voilà. Effectivement, c'est normal que ses agents le soient. C'est normal que les agents traitent tout le monde de la même manière, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances.
Bien sûr.
Après, j'ai presque envie de dire qu'un agent de l'État, dès qu'il sort de son établissement, il a tout à fait la possibilité d'exprimer ses croyances et ça sans aucun problème. Il a cette contrainte, si on peut appeler ça comme ça, de neutralité au sein de son établissement, mais en dehors, il retrouve les libertés du simple citoyen.
Très bien. Et alors, il y a cette histoire de ostentatoire ou ostensible, des fois. C'est pas évident, hein, le vocabulaire, savoir qu'est-ce qu'on peut afficher ou pas dans l'espace public, ou justement quand on est agent de l'État, comme signe religieux ou comme comportement. Il faut bien préciser, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, je crois.
Oui, Régis, parle-nous de la fameuse loi de 2004.
Alors, par rapport à la question que vous posez, en dehors de l'école et des élèves, tout adulte, dans l'espace privé, dans l'espace public, il peut s'habiller et porter ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème.
Oui.
Même un citoyen qui vient dans un service public s'habille comme il veut. Il peut porter des signes, etc. Je veux dire, le citoyen, il peut manifester ses convictions comme il a envie, dans le respect de l'ordre public.
Oui.
Donc voilà, il n'y a aucune contrainte qui est posée sur les citoyens. Ensuite, sur les élèves, la loi de 2004, qu'est-ce qu'elle précise? Elle précise qu'il y a l'interdiction par les élèves de porter des signes qui manifestent de manière ostensible leurs convictions religieuses. Mais ça veut donc dire qu'ils peuvent porter des signes discrets. Mmh. Puisque la commission Stasi, en 2004, elle a voulu faire en sorte que la liberté de conscience des enfants soit respectée. Mmh. Donc ça ne les empêche pas, dans la mesure où ils ne font pas de prosélytisme, ils ne tentent pas de convertir leurs copains à quelque religion que ce soit, ou conviction que ce soit, puisqu'on peut aussi parler des convictions politiques, syndicales, tout ce que vous voulez.
Oui, oui, c'est vrai.
Il n'y a pas que les religions dans la vie.
Tout à fait. Hein.
Et donc, ils peuvent porter un signe discret qui exprime leur conviction personnelle. Mmh. Mais après, tout dépend comment, au sein de l'école, par les personnels, va être apprécié ce signe discret. Mmh. Et si bien, tous les personnels ont bien acquis le principe de cette loi de 2004. Et après, il restera au chef d'établissement de décider, pour la paix et le respect de la sécurité dans l'établissement, mmh. pour pas que ça fasse de remous et de vagues, etc. Oui. On le sait bien, de demander à l'élève et à ses parents de bien comprendre la situation et parfois de devoir supprimer les signes. Mmh. Et surtout, les enfants ont le droit de parler de leur religion. Ils ont l'expression libre. Mmh. Ils ont le droit de parler de leur religion au sein de l'école, au sein du collège ou du lycée, c'est autorisé dans la mesure où ils ne cherchent pas à faire du prosélytisme.
Oui.
Donc on peut, la liberté d'expression, elle existe.
Voilà.
Oui, pourquoi le législateur a créé cette loi de 2004? Ça n'a pas été simple. Pourquoi interdire les signes ostentatoires ou ostensibles? Parce que le législateur a considéré que ces signes-là pouvaient être des armes politiques. Par exemple, une religion, en faisant porter tel ou tel signe, pouvait essayer de faire du prosélytisme. Le législateur a considéré que les enfants, les mineurs, étaient une sorte de cire malléable et pouvaient être influencés par ces armes politiques, ces armes religieuses.
Oui, bien sûr. Hein.
Donc voilà pourquoi il a interdit ces signes ostensibles.
Oui, oui, de la même manière que tout ce qui a été à une époque, catéchisme, etc., a été retiré des établissements scolaires parce que... Après, je ne sais pas s'il y a encore toujours des branches d'enseignement des religions. Ça fait partie, je pense, quand même un petit peu du cursus des élèves, dans le sens large, c'est-à-dire justement pas une, mais toutes. Est-ce que c'est pas un trou dans la raquette, ça aussi
Non. La culture laïque faite à l'école, elle doit normalement pouvoir enseigner les expliquer ou
aborder
les différentes religions qui existent de telle manière à ce que tout le monde sache ce qui existe. Alors, on parle beaucoup de religion, mais conférence ce matin, j'ai expliqué aussi qu'il y a en France 58% des Français, de la nation, qui sont non-croyants. Donc, il ne faudrait pas non plus oublier ces 58% de Français qui sont athéistes, agnostiques ou indifférents, c'est-à-dire qu'ils se fichent complètement de tout ça et ne veulent pas en entendre parler. Ou bien ils passent à côté, tout simplement, ça leur glisse dessus. Donc il ne faut pas oublier que les questions de religion préoccupent 42% de la population. Les catholiques, c'est 29%. Les musulmans, c'est 6%. Les protestants, c'est 2%.
Ah, du coup, c'est une minorité quand même.
C'est, la loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État.
Oui, tout à fait.
Donc je veux dire, quelque part, on ne peut pas oublier qu'il y a des églises. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'une grande majorité de nos Français, des Français, sont non-croyants.
Tout à fait.
Et fatalement, ça amène à parler des établissements privés sous contrat.
Alors ça, c'est un trou dans la raquette.
Qui sont financés...
La loi de Bray,
c'est... sous contrat, la loi de Bray, qui sont financés par les impôts, les impôts des Français.
Et oui.
Et donc il y a 58% des Français, qui se disent être complètement détachés de toute religion, qui paient des impôts et que leurs impôts sont utilisés pour les établissements confessionnels.
Oui, c'est vrai. C'est un sujet aussi. Bon, on va faire une pause. On va écouter le flash info local et on va continuer à discuter de tout ça parce qu'il y a fort à dire, hein, messieurs. Voilà, de retour avec Régis Van Acker, président de Laïcité 40, et Hubert Raffini de Laïcité 40 aussi. Donc on a encore des choses à dire. Alors on va parler un petit peu de votre association, ses actions. On parlait de pédagogie. Vous êtes là un peu sur le terrain. D'ailleurs, aujourd'hui, chacun d'entre vous était par Mons et par Vaux, si je puis dire, pour la faire vivre.
Régis était à Mont-de-Marsan. Il a participé au nom de Laïcité 40 à la conférence lancée par le préfet des Landes. Tu peux nous en parler peut-être ?
Alors, quelques mots, hein, parce qu'il faut que il faut qu'on débriefe. Alors, monsieur Raffini, Hubert, c'est le secrétaire de l'association.
Secrétaire, voilà.
Conférence, donc, monsieur le préfet a précisé que dans les départements, il y avait donc cette possibilité d'organiser de manière annuelle, tous les ans, une conférence de la laïcité et de la liberté de pratiquer son culte. La liberté de culte, pardon. Ce qui a permis de mettre autour de la table tous les responsables des services publics, et puis les cultes, et puis l'association Laïcité 40 était invitée à participer. Et ce qui a permis de faire un tour de table et de faire un peu un état des lieux de ce qui peut être mis en danger de la laïcité dans le département.
Oui.
Je ne vais rien cacher sur le diagnostic, c'est que même au niveau judiciaire, il y a très peu de choses qui sont remontées sur des faits particuliers dans les Landes, sur les transgressions à la laïcité. C'est vraiment... Ensuite, même chose, sur la formation des personnels, c'est de très bons pourcentages de formation. Donc voilà, c'est une conférence, j'espère, qui va se pérenniser tous les ans, parce que c'est franchement très intéressant de se mettre tous autour de la table pour en parler, et pas travailler chacun dans son coin et de manière isolée, mais de partager ensemble diagnostic, action. Monsieur le préfet a mis en exergue trois pistes modestes, mais importantes, pour dynamiser la conférence, et c'est excellent.
Très bien. Alors aujourd'hui, on a, vous ne l'entendrez pas, mais il est là dans le studio, on a Lucas, un stagiaire de collège, hein, de troisième, comme chaque année. Et puis en discutant avec lui, on sait aussi qu'au collège, ça fait partie des sujets qu'on aborde, notamment en EMC, peut-être pas que aussi. Et puis il y a souvent des actions qui sont menées. Vous faites partie peut-être vous aussi des associations qui font des interventions en milieu scolaire, justement pour parler aux jeunes de cette laïcité.
Oui, effectivement, certains établissements scolaires... nous demande d'intervenir. Est-ce qu'on pourrait faire un jeu, par exemple, pour les auditeurs, et poser des questions complètement simples ? Puis-je manifester mes convictions religieuses dans l'espace public ? On se pose encore la question.
Et oui.
Bien sûr que je peux manifester mes convictions religieuses. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Régis.
Oui,
puis une autre question qui va intéresser votre stagiaire.
Oui.
Élève d'un établissement scolaire public, puis-je manifester mes convictions religieuses ? Mais bien sûr, il ne s'agit pas de faire de prosélytisme, mais dire « je crois en ceci, je crois en cela » ou « je ne crois en rien », mais c'est sain et c'est tout à fait normal d'exprimer ses croyances.
Tout à fait.
Tout à fait.
Voilà. Et de même qu'au collège, on a le droit d'avoir un maillot de l'OM ou du PSG et de ne pas vouloir forcément obliger l'autre à aimer son équipe.
Tout à fait.
C'est un sujet plus léger, mais bon, voilà, ça occupe peut-être plus les jeunes. Alors les jeunes, d'ailleurs, vous, votre diagnostic, c'est quoi ? Cette notion de laïcité, justement, est-ce qu'on leur a suffisamment présenté ? Comment est-ce qu'ils la vivent par rapport à nous, adultes d'un certain âge ? Est-ce que ça devient acquis, vraiment, pour eux ?
Voilà, le mot acquis, c'est pas que ça me plaît pas, mais je pense pas que ça soit adapté. Les enfants se construisent progressivement à l'école sur ce principe de la laïcité depuis l'école, le collège et les lycées, au travers de l'éducation morale et civique. Donc il y a tout un programme qui est fait, de telle manière à ce qu'ils puissent se forger leur compréhension de ce que sont les valeurs de la République et la laïcité dans notre pays. Mais la question qui se pose, c'est quand ils quittent le lycée, où il n'y a plus aucune formation qui est donnée, dans la vie du citoyen, dans sa construction d'adulte et dans sa vie d'adulte de citoyen, qu'est-ce qui est fait pour maintenir la flamme de la compréhension de la laïcité et des valeurs de la République.
Oui.
Donc ça, c'est aussi un challenge, hein. C'est comment permettre à la population de pouvoir toujours avoir, de comprendre et de s'approprier ces éléments-là qui sont les fédérateurs de notre République.
Bien sûr, ouais.
Donc, à un moment donné, trop souvent avec Hubert, on a entendu parler de la laïcité, mais chacun a son interprétation particulière.
Mmh.
Ce qui fait que, on ne s'entend plus, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas ça, etc. Donc, parfois, il est bon de remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t, quoi.
Ouais. C'est pour ça que vous êtes là aussi, ici, hein, quand on renouvelle ce message. Hein.
On essaye. Mais je fais aussi si ça peut être un appel, hein, on est une association, on a besoin de forces vives pour faire vivre tout ça sur le département. Venez nous rencontrer, venez adhérer à notre association, venez participer aux différentes actions que l'on mène si vous êtes convaincu et un républicain convaincu qui a envie de développer et... Voilà.
Républicain convaincu, engagement, ceci étant notre baseline, disent les communicants, c'est la laïcité n'est pas une opinion, c'est la possibilité donnée à chacun de choisir l'opinion qu'il souhaite.
Oui.
Ça, c'est important.
C'est vrai, on n'arrête pas d'essayer de trouver des définitions, des punchlines qui rentrent dans la tête des gens, hein, parce que c'est vrai que. Après, le message est des fois brouillé par certaines personnes qui dévoient complètement cette notion de laïcité en voulant la faire passer pour un combat contre certaines communautés, certaines religions, ce qui est exactement révoltant, puisque c'est très exactement le contraire de l'objectif de son existence. Ça, c'est un problème dans la société en ce moment. C'est pour ça qu'on est obligé d'en reparler tout le temps, parce que les gens qui... je donnerai bien entendu aucun nom, ni voilà, les gens qui écoutent certains messages, à un moment donné, ils disent « Ah ouais, mais alors, on tape sur ci, mais pas sur ça. » Voilà, c'est un peu compliqué quand même en ce moment, pour les gens en tout cas, je pense, dans la société.
Oui, il y a tout à fait une liberté d'expression, et on peut être laïque convaincu et s'autoriser sans aucun souci à avoir une analyse critique sur telle ou telle religion. C'est tout à fait possible.
Oui.
Ou tel courant de pensée. C'est aussi ça, la liberté d'expression.
Tout à fait.
Tant qu'on n'est pas sur à désigner quelqu'un en particulier.
Voilà, ouais, c'est ça.
Là c'est diffamatoire.
Et oui, voilà, liberté, c'est un dû, mais en fait, c'est un devoir aussi, c'est un petit peu un combat. Ce n'est pas juste de la mettre dans sa poche et dire c'est bon, et il faut la faire vivre.
Oui, et si je puis me permettre, la laïcité est aujourd'hui insuffisamment établie en France, du fait des 120 ans de fluctuations politiques, comme de recul jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'il y a nombreuses dérogations qui sont venues affaiblir, voire contredire le cadre de la loi de séparation. Le droit de 2025 se trouve ainsi en deçà de la loi de 1905.
Ah oui.
Alors tant que la loi restera une loi simple, et j'ai entendu à la télévision ou à la radio le fait qu'il faudrait la modifier, cette loi de 1905, la mettre à jour d'aujourd'hui, enfin je veux dire de la vie de notre société... voilà, tout ça pour avoir de l'affaiblir, hein, et on voit par derrière ce qu'il peut y avoir en termes d'influence dogmatique, quelle qu'elle soit, et je dis non, surtout il ne faut pas y toucher, et je dirais même que les deux premiers articles de la loi de 1905, il faut les constitutionnaliser.
Tout à fait.
Oui, de telle manière à les protéger, et faire en sorte qu'on n'y touche plus.
Et voilà, on a fini avec une petite chanson de Noël, ça fait du bien. Alors, on va reparler actualité, hein. Donc on est le 9 décembre, hein, donc c'est un jour particulier, c'est la journée de la laïcité. C'est aussi les 120 ans hein, donc de cette fameuse laïcité, ce mot on l'aura prononcé un paquet de fois, je crois, dans l'émission. J'espère que ça portera ses fruits. Et je voulais rappeler, hein, donc la semaine dernière, on a reçu ELEMA et la Ligue des droits de l'homme, et on a parlé essentiellement de la lecture de l'ouvrage posthume de Charb, hein, de Charlie Hebdo, Il y a eu un avant et un après, hein, cet événement quand même. Et donc, alors je rappelle le titre parce qu'il veut tout dire, hein, c'est « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes hein. ». Je parlais tout à l'heure de l'instrumentalisation de cette fameuse laïcité par certains qui voudraient lui faire dire ce qui les arrange. Voilà, donc il faut qu'on reste vigilant, messieurs.
Bien sûr. On disait tout à l'heure, il ne faut surtout pas percevoir la laïcité comme quelque chose de liberticide. Il ne faut surtout pas l'apercevoir aussi comme quelque chose de clivant. Mm. C'est en fait un trésor de notre législation qui permet effectivement de faire société. Notre société est effectivement diverse. Et pour faire que tous ces éléments puissent se combiner, la laïcité est une solution qui fait école aussi dans d'autres pays, même si en France, elle n'est pas complètement appliquée, pas partout sur les territoires, pas partout, bien sûr. Il y a quelques accros à la laïcité, mais globalement, c'est quand même une chance que d'avoir ce principe, ça n'est pas une valeur, mais ce principe juridico-politique.
Oui. Alors justement, on parlait des autres pays au niveau de nos voisins européens, etc. On est comment d'ailleurs, nous ? C'est vraiment une exception française, cette position, ou est-ce qu'il y a des pays qui nous rejoignent sur ça ?
Permettez que
Il y a même des pays qui nous devancent.
Je vais reprendre un peu ce que vous aviez dit sur l'islamophobie. Tout à l'heure, à la conférence, il y a l'aumônier de la prison de Mont-de-Marsan, aumônier musulman, qui a pris la parole pour expliquer que, bien effectivement, le culte musulman respecte en tout point le principe de laïcité dans ce pays, et qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec l'islam politique, qui, elle, ne reconnaît pas les lois de la République, mais ne reconnaît que la loi religieuse, et ce qui porte une difficulté en France, parce que moi, c'est ma manière de penser les choses comme ça, hein, c'est mon point de vue.
Oui.
C'est que si on ne réagit pas et si l'État français ne réagit pas par rapport aux frères musulmans, d'ici quelques années, eh bien, ils se seront installés dans les différents lieux de décision. Je prends par exemple les collectivités, etc. Et voilà, on sera... Ce sera difficile, hein, ce sera difficile.
Oui.
Donc, bien faire la différence entre l'islam politique et les musulmans, qui sont totalement, dans leur pratique, intégrés au pays. Ensuite, la deuxième question, c'était...
Oui, il y a un terme qui me paraissait découler de ce que tu viens de dire, Régis, c'est l'islamo-gauchisme. Alors bien sûr qu'ici, un petit peu épargné par ce genre de choses. Mais par exemple, vous parliez tout à l'heure des jeunes. Là aussi, dans les Landes, on n'a pas ce genre de choses à pointer. Mais 49% des jeunes musulmans de moins de 17 ans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République.
Ah oui.
Ça, c'est quand même grave.
C'est fâcheux,
oui.
Ça.
Oui, c'est embêtant.
C'est quand même grave.
Hein. Oui.
C'est pour ça qu'effectivement,
en termes de réflexion,
l'islamophobie, il faut réellement y réfléchir.
Bien sûr,
il ne s'agit pas de faire d'opposition systématique, de clivage, etc., mais faire quand même attention, parce qu'effectivement, quelques religions, je vais être très large, ont des objectifs qu'on n'imagine pas.
Oui.
Et c'est notamment prendre le pouvoir sur l'État.
Oui, c'est ça, parce que nous, on en parle, l'éducation en soi, on en parle, mais il y a des gens qui passent derrière et qui ils ont notre discours, ils essayent de convertir des gens à des choses pas très très jolies.
Alors, dans ce que tu viens de dire, Hubert, moi j'ajoute qu'il y a depuis quelques années des élus en France, hein, pas dans les Landes, dans France, qui ont délaissé certains quartiers, tout simplement pour pour avoir la paix sociale, et faire en sorte que ces quartiers sont quasiment en autogestion aujourd'hui, mais certainement pas dans un bon état. Hein, parce qu'il y a eu une emprise sur ces quartiers par différentes communautés. On peut aussi parler du narcotrafic,
ni plus ni moins.
Donc voilà, j'estime qu'on s'est tiré une balle dans le pied, où aujourd'hui, c'est une énorme difficulté pour récupérer ces quartiers qui sont maintenant à la violence... Enfin, voilà, il y a eu des erreurs politiques fortes qui ont été faites on aura du mal à revenir dessus.
Mais oui, il y a des gens qui ont dit qu'il fallait faire moins de prévention, ben, voilà le résultat.
Alors, moi, c'est ce que j'appelle les accoutumances raisonnables. Mmh. Hein, on essaye de trouver une solution tranquille pour que ça, on achète la paix sociale.
Et les accommodations, oui.
Et ça se paie sur le long terme.
Les accommodations.
Les accommodations, oui. J'ai dit quoi?
Les accoutumances.
Ouais, ah oui, c'est parce qu'il parle de narcotrafiquant, c'est un lapsus révélateur. Hein. Ouais. Mais on gardera ça pour nous, ouais. Personne ne nous écoute, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est bien de terminer sur cette note joyeuse, parce que voilà, on a l'air de dire un truc très grave, et tout, etc. Alors ça paraît tellement simple. Mais le meilleur moyen d'être patriote, c'est d'être laïque. Voilà, en tout cas, moi je le pense. Voilà. Mais oui, et comme vous disiez sur une de vos plaquettes, ben, vive la République, vive la France. Voilà.
On peut le dire, en effet.
Alors, moi, je préférais, par rapport à ce que vous avez dit, que tout citoyen en France, c'est un citoyen républicain. Mmh. C'est-à-dire qu'il respecte la République et ses valeurs, et les valeurs de la laïcité. Enfin, voilà, c'est qu'on peut accepter de vivre tous ensemble dans la mesure où on se respecte dans nos différences et qu'on respecte aussi le cadre dans lequel nous vivons.
Tout à fait.
Et qu'il y a donc définitivement un point commun entre tout le monde, quelles que soient ses croyances, sa religion, et il faut s'attacher, je crois, à mettre en avant ces points communs, ces similitudes.
Très bien. Eh bien, merci messieurs d'être venus
nous
parler de tout ça, puis continuer à faire vivre ce trésor, comme vous disiez. C'est un beau mot, un trésor.
Venez adhérer à la CIT 40.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup messieurs. Au revoir.
Au revoir.